Alors, je vais vous parler, bien sûr, de la procréation médicalement assistée et de cette aventure un peu incroyable qui fait que ce qui était invisible depuis que l'humanité existe, c'est-à-dire le tout début de l'homme, de l'humain plutôt, est devenu visible et que ce qui était intouchable est devenu manipulable, puisque vous allez le voir sur les quelques diapositives que je vous ai amenées. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, l'embryon humain est donc devenu, je dirais, un possible de manipulation, ce qui n'est pas sans poser, bien sûr, un certain nombre de questions. Les choses ont commencé assez simplement, puisque, vous le savez, les femmes ont toujours, dans tous les pays du monde et à tout moment, été extrêmement attentives à leur fertilité. Et l'absence de grossesse pour une femme dans beaucoup de pays du monde, surtout lorsqu'elle est bien sûr involontaire, cette absence de grossesse, eh bien, est vécue comme un drame qui peut aboutir à l'exclusion familiale, à l'exclusion de la société, et il ne faut pas croire que ces techniques de fécondation in vitro, dont je vais vous parler un peu en détail, le temps que les diapositives se mettent, soit réservé aux pays dits développés. Bien sûr, le coût de ces techniques, la nécessité d'avoir des équipes, il y a plusieurs médecins qui interviennent, plusieurs biologistes, on a cité Jacques Testard qui était effectivement avec moi au début, et puis d'autres qui lui ont succédé et qui ont permis de faire les premières que vous avez entendues. Donc c'est bien entendu un coût et une certaine... Mais il y a une telle... Si vous voulez, angoisse de la non-maternité, la plupart du temps, que dans, il n'y a pas un pays au monde, même en Afrique, même en Asie, où il n'y a pas, si vous voulez, une activité d'assistance médicale à la procréation. Si je vous disais, par exemple, je vous posais la question, combien il y a de centres de fécondation in vitro en Jordanie? Eh bien, et si je vous réponds qu'il y en a plus de 20, si je vous dis qu'il y en a plus de 350 ou 400 maintenant en Chine, et que c'est pareil dans tous les pays du monde. Donc, le projet d'enfant, le désir d'enfant, et un enfant au mieux de sa forme, on va dire, a toujours habité tous les espaces des esprits, sous toutes les latitudes et toutes les époques. Ceci étant, si vous me donnez, c'est moi qui commande la... où j'ai un petit bouton. Il arrive. Donc, ceci étant, évidemment, on va permettre à des couples d'être parents. Et puis, on va avancer dans quelque chose, dans plusieurs étapes qui étaient inimaginables jusqu'à présent et qui soulèvent un véritable débat de société. C'est pour ça que j'accepte avec plaisir ce type d'invitation, parce que je pense effectivement qu'il est important que nous puissions... Merci. Que nous puissions en discuter. Donc, je parlais du désir d'enfant, qui, bon, vous avez vu les dernières nouvelles, là, on est à 1,9, on a baissé, 11 000 naissances de moins l'année dernière. Je ne sais pas si on va les rattraper avec la PMA, avec la procréation médicalement assistée, mais enfin, il y en a quand même 20 000 qui naissent après PMA par an, hein, donc ça représente quand même quelque chose. Alors, un petit peu d'histoire, pour dire que, vous savez, en fin de compte, on ne connaît pas grand-chose à la fécondation de l'homme, et il y a peu de temps qu'on a un peu levé un peu quelques voiles. Lorsque William Harvey a découvert les follicules au niveau de l'ovaire, il a pensé qu'on a développé une théorie oviste, c'est-à-dire qu'il y avait dans chaque ovaire de chaque femme, toutes les femmes de l'univers depuis Ève. On pensait que, voilà, c'était elle qui portait le petit bonhomme ou la petite bonne femme depuis le début de l'humanité. Puis ensuite, on a découvert des spermatozoïdes avec un monsieur qui s'appelle Levin. Ok, si vous regardez bien ici, vous voyez le dessin d'un spermatozoïde avec ici un petit bonhomme qui se tient les genoux. Donc, le machisme va reprendre le dessus, et puis les hommes vont dire, mais non, c'est quand même pas vous qui avez tout ça dans votre ovaire, c'est nous qui avons ça dans les spermatozoïdes que nous venons de découvrir. Et vous êtes là simplement pour chauffer la marmite, les femmes sont là pour simplement développer, mais c'est tout. Et puis on va se rendre compte avec la génétique qui va être découverte peu à peu que finalement c'est 50-50, hein, 50-50 en termes de chromosomes. Ceci étant, une fois qu'on a compris qu'il faut quand même des spermatozoïdes et puis il faut qu'il y ait des ovules, il va y avoir quelqu'un d'assez extraordinaire, hein, c'est l'abbé Spallanzani, qui va s'amuser à mettre des petites culottes aux grenouilles mâles et va se rendre compte qu'avec une petite culotte des préservatifs, quoi, en un mot, bah, il n'y a pas de fécondation. Donc il démontre qu'il faut des spermatozoïdes d'un côté, il faut des ovules de l'autre, et puis il faut tierce personne ou une tierce force qui va être pour les uns Dieu, qui est pour les autres une puissance extra, qui fait que ça marche ou ça marche pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est toujours la même chose. On ne sait jamais à l'avance si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Et puis les médecins ont commencé un petit peu à s'y mettre, mais vous voyez, c'est assez tard, hein, c'est-à-dire c'est assez tard. On va voir la première insémination, c'est-à-dire que la première dissociation entre la reproduction humaine et l'acte sexuel. Et là, on voit bien qu'on va toucher tout de suite des problèmes fondamentaux idéologiques, puisqu'on va parler sous-jacent de sexualité, et il va y avoir des réflexions sur le fait, peut-on dissocier l'acte sexuel de l'acte de la reproduction. Et c'est tout le débat qu'on va revoir venir ces derniers temps, avec le débat sur la pilule, avec le débat sur la fécondation in vitro, c'est-à-dire tout ce qui va intervenir pour dissocier l'acte sexuel de la reproduction. Alors, la gynécologie était un peu aveugle, hein, on tâtonnait, c'est le cas de le dire, dans l'image. Et puis, comme vous le voyez, maintenant, on a vu ce que je disais tout à l'heure, ce que c'est qu'un spermatozoïde, ce que c'est qu'un ovule, et on peut même faire des belles images qui sont dans toutes les livres scolaires, et je dirais il y a une trentaine d'années, quand j'avais présenté, ou un peu plus, quand j'avais présenté mon agrégation, c'était les premières photos de ce type de développement. Reste un autre mystère, hein, c'est le désir humain, qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme se désirent et ont envie d'avoir un enfant, ne font rien contre en tous les cas, et parfois même font beaucoup de choses pour. Alors, pourquoi est-ce qu'on a inventé cette méthode de rencontre du spermatozoïde et de l'ovule à l'extérieur de l'organisme? Eh bien, parce que, tout simplement, il y avait, si vous voulez, avec le changement des mœurs, il faut bien le dire, au cours des années 70, il y a eu, pour les jeunes adolescents, des rapports sexuels qui étaient avant mariage, qui étaient beaucoup plus développés, avec des partenaires multiples, ce qui entraînait comme conséquence des infections au niveau des trompes. À l'époque, il n'y avait pas encore le sida, donc il n'y avait pas de précautions, en particulier des préservatifs, justement, qui préservent, entre autres, des infections. Et donc, beaucoup de jeunes femmes de cette époque-là se sont trouvées avec des... Vous voyez ici les trompes, l'utérus est là, et donc après un rapport sexuel, normalement, de l'ovule viennent ici, de l'ovaire, des ovules, et puis des spermatozoïdes qui vont se rencontrer. Et si la zone est bouchée, ben, il ne peut pas y avoir de fécondation. Donc ça, c'était les premières qui ont commencé, je dirais, à nous poser... Ah oui, voilà, tout à fait, c'est vrai, c'est bien. Donc, les premières tentatives de fécondation in vitro, il faut rendre hommage à un homme, ici représenté, là, vous m'avez reconnu tout jeune, là, et c'est Bob Edwards, qui... avait travaillé chez l'animal. C'est un biologiste, je dirais, vétérinaire, et qui essayait de faire chez l'animal les fécondations in vitro pour essayer d'améliorer ou de sélectionner des races de vaches ou d'autres. Et puis lui, il a voulu passer à l'homme, à l'humain, en proposant donc en 65, si vous voulez, de s'attaquer à cette problématique de la stérilité masculine. Et il a abouti 13 ans plus tard, en 78, à la naissance de Louise Brown, donc c'est quand même une belle persévérance, on va dire. Et ça a été un véritable bouleversement pour le monde médical, qui ne croyait pas forcément que c'était vraiment possible, que c'était pas un bobard, et deuxièmement pour la société entière, qui, je dirais, se rendait compte qu'on allait franchir des étapes et qu'il y avait là, comme je le soulignais tout à l'heure, une véritable transgression. Alors, la technique, schématiquement, c'est assez simple. On va prélever donc des ovules au bon moment, on va recueillir des spermatozoïdes, on va les mettre dans un milieu particulier et on va avoir un embryon que l'on va avoir en éprouvette, d'où le terme bébé éprouvette, et puis on va remettre l'embryon au sein de l'utérus 2-3 jours après. Donc, il va rester en éprouvette et hors le corps de la mère 2 à 3 jours simplement, mais suffisamment pour quand même faire toute cette transgression. Vous voyez sur ces images d'échographie un ovaire qui est stimulé par des médications, et donc on peut le recueillir ensuite par une aiguille, et vous voyez qu'il va être fécondé. Pourquoi est-ce qu'il est fécondé? Parce que vous avez ici 2 petits ronds qui sont chacun de 23 chromosomes. En effet, nous sommes habituellement faits de 46 chromosomes, et il va falloir reconstituer 23 plus 23 pour recréer le début du début, qui va se diviser en 2 cellules, qui va se diviser en 4 cellules en 2 jours. Vous voyez donc là, effectivement, des images du début de l'embryon humain, qui va, au 5e jour, former cette petite masse qui sera l'embryon, ici qui sera le placenta, et donc ensuite, vers le 6e, 7e jour, va sortir de sa coquille, parce qu'il y a une coquille, là, vous voyez ici, et va s'implanter dans ce grand champ qui est l'utérus, une véritable mère, MER, et il va rentrer à l'intérieur, et c'est la naissance donc de Louise Brown. Quelques étapes ensuite, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait donner des ovocytes, une autre femme pouvait donner des ovocytes lorsqu'une femme n'avait pas de fonctionnement ovarien, et que cela s'imprégnait quand même, ça tenait, ça n'avait pas de rejet. Et puis surtout en 84, la naissance du premier bébé après congélation embryonnaire, on va donc passer par une étape de congélation qui peut durer des années, et qui, à la décongélation, peut reprendre son activité, ce qui, bien sûr, introduit complètement une notion du temps, qui, quand même, est assez étonnante, puisqu'il y a une dissociation assez longue, qui peut avoir longue. Les congélations de sperme qui ont donné des enfants, aujourd'hui, dépassent 20-25 ans. Alors, les techniques, je vais peut-être passer rapidement, pour vous montrer juste une image qui consiste ça ici, là c'est l'utérus que vous voyez ici, et une fois que l'embryon a été fait, on va le remettre, vous voyez, dans une petite pipette, voilà, dans la goutte que l'on voit, la goutte blanche, et en fait il est à l'intérieur, on va croiser les doigts parce qu'on ne sait pas s'il va se développer, et en fait il va se développer dans 30 à 40% des cas, donc c'est pas mal, mais c'est insuffisant parce que c'est 60% d'échecs. Alors, le progrès s'est fait à continuer, c'est qu'on s'est adressé à des stérilités non plus féminines mais masculines. Les hommes ont très peu de spermatozoïdes, certains hommes, et on s'est rendu compte que si on prélevait soit au niveau des testicules, soit un spermatozoïde et qu'on l'introduisait de force dans l'ovule, il pouvait y avoir une fécondation avec un seul spermatozoïde, alors que normalement, dans un éjaculat, il y a, je dirais, 60 millions de spermatozoïdes. Donc, vous voyez, on passe de 1 à 60 millions, et on arrive de cette façon-là à réaliser une fécondation. Voici donc une autre technique qui consiste à faire un petit trou dans la membrane pellucide qui entoure l'embryon, à prélever une cellule et à pouvoir l'analyser. C'est ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire, c'est-à-dire qu'avant de décider si cet embryon, il va être implanté, on va analyser une de ces cellules, pour être sûr qu'il ne soit pas porteur de telle ou telle maladie que ses parents ont le risque de transmettre. Donc là, on change de registre, on s'adresse à des couples qui sont pas forcément infertiles, qui peuvent être fertiles, mais qui ont le risque de transmettre une maladie génétique. Donc vous voyez comment les choses évoluent et ne cessent d'évoluer dans les indications. Voici donc sur une cellule, par exemple, vous repérez ici 3 spots roses. Ceci, étant donné que c'est une sonde de la trisomie 21, vous savez que cette cellule est trisomique, donc l'embryon est trisomique, et vous le savez avant de décider de le remettre ou de ne pas le remettre dans l'utérus. Ici, par contre, les choses sont équilibrées, 2 verts et 2 rouges. Il n'y a donc pas de problème sous-jacent. Et vous voyez que ces embryons, finalement, on peut les prélever le premier jour, en prélevant le premier globule polaire. On peut les prélever au 3e jour en faisant la technique de tout à l'heure, et on peut même les prélever un peu plus tard, au 5e, 6e jour, avec plusieurs cellules qui peuvent être analysées. Donc on rentre vraiment dans un champ où il y a une transparence de l'embryon, et bien entendu vous allez me poser la question, mais est-ce que c'est pas délétère pour l'embryon d'enlever comme ça une ou deux cellules? Eh bien en fait non, les enfants qui sont nés après ces techniques ont le même poids de naissance et le même type de développement, je dirais, que les autres. Ensuite, on savait congeler des spermatozoïdes, on savait congeler des embryons, 84, et vous voyez qu'on a commencé à développer la technique de congélation maintenant des ovules. Alors vous savez, la congélation, c'est assez simple, hein, parce que si je prenais quelqu'un d'entre vous, puis je le mets à moins 196, il sera congelé. Par contre, je ne peux pas garantir, même Pétain, que la décongélation, ça fonctionne. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher à congeler des ovules? Mais parce qu'il y a un certain nombre de jeunes femmes qui ont malheureusement, on va dire, un cancer, et qui peuvent être traitées de ce cancer, s'en sortir. Mais vous savez que dans le traitement du cancer, il y a des produits agressifs pendant un temps, et en particulier qui vont être agressifs sur l'ovaire. Donc les femmes vont être guéries, mais elles vont être stériles. D'où l'idée de prélever des ovules avant, pour leur garder une chance, lorsqu'elles sont guéries, de tenter une grossesse. Mais comme elles ne sont pas toutes en couple, on ne peut pas faire des embryons à tout le monde. Donc la possibilité de congeler des ovules. Alors, ça s'est développé. Il y a aussi une équipe belge, en particulier Jacques Donnez, qui a développé, ici vous avez une image qui montre à l'intérieur d'un ventre, vous avez ici un ovaire, on va prélever un fragment ovarien, on va le conserver au froid pendant quelques années, le temps que cette patiente soit guérie, et on va le remettre, le réintroduire à l'intérieur de l'ovaire pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de grossesses dans le monde de ce type. Donc, une histoire intéressante des femmes jeunes qui peuvent être guéries et conserver un espoir de maternité, ce qui peut-être d'ailleurs aide pour une part à leur guérison, on va dire, à leur enthousiasme pour la guérison. Ce qui est intéressant, c'est de penser comment on part toujours d'une histoire médicale, celle-ci, ce que je vous raconte, c'est une histoire strictement médicale, et que la technique étant mise au point, on peut étendre ces indications. Et c'est tout le débat qui a agité déjà l'année dernière, mais qui va surtout agiter cette année et l'année qui vient, de savoir, est-ce qu'on va passer du médical au sociétal? Qu'est-ce qui va faire qu'on va mettre en œuvre, si vous voulez, ce genre de technique? Par exemple, la congélation d'ovocytes, on pourrait dire, ben, après tout, si la technique marche, une jeune femme pourrait dire, écoutez, moi j'ai 35 ans, j'ai pas encore de prince charmant, ou je fais autre chose dans ma vie, ce qui devient de plus en plus fréquent, comme vous le savez, le retard de l'âge de la femme au premier enfant. Et donc, je préférerais mettre mes ovocytes, quelques ovocytes de côté, parce que je sais, et j'ai entendu, je vous ai entendu à la télé, la fertilité baisse avec l'âge. Donc j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans ou 42 ans en train de vouloir un enfant, mais de plus rien avoir comme potentiel. Alors là, vous voyez, est-ce que c'est du médical ou est-ce que c'est du sociétal? Je vous ai raconté ça parce que justement, on est à la limite, si vous voulez, de cette interrogation. Et c'est un des débats qu'il va y avoir et que je pense c'est un débat citoyen qu'il faut se poser. Ici, c'est le petit Umut dont vous parliez tout à l'heure, Madame Pétain, qui est effectivement cet enfant qui est venu au monde dans un cadre particulier. En effet, cette famille avait deux enfants atteints de thalassémie. Vous savez, la thalassémie, c'est une maladie des globules, je dirais, et qui aboutit à des transfusions toutes les semaines, avec les risques que représente la transfusion pour ces enfants, puisque le mari et la femme sont chacun porteurs, et que la somme des deux, la malchance fait que les enfants ont la thalassémie. Pour les tirer de ce mauvais pas, il y a une technique qui a été inventée d'ailleurs en France en 84 par Mme Eliane Gutmann, qui consiste à greffer de nouvelles cellules, des cellules de la moelle osseuse, comme on dit, qui vont régénérer, n'est-ce pas, les cellules du sang. Mais le problème, c'est que pour que ces cellules restent dans l'organisme greffées, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, je vais être assez simple, une compatibilité. Et nous avons tous des schémas de compatibilité qui font que même dans la même famille, les parents, par exemple, si vous prenez cet exemple-là, les parents et le grand-père, ici, n'ont pas de cellules de la moelle osseuse, n'ont pas une compatibilité. Si bien qu'on ne peut pas transférer des cellules de la moelle osseuse des parents ou de la famille à ses enfants parce que c'est incompatible. Donc la seule façon, c'est que ils aient à nouveau des enfants, et que les enfants soient d'une part indemnes de la maladie, et d'autre part compatibles. C'est ce qui s'est passé pour le petit Umut, puisque on a pu analyser une cellule alors qu'il était à l'étape embryonnaire, savoir que cet embryon-là était porteur, je dirais, de la compatibilité et qu'il n'était pas atteint de la thalassémie. Donc cet enfant est né sain et en plus, au moment de la naissance, j'ai prélevé le sang du cordon, fait isoler par mes collaborateurs les cellules qui ont été transférées à la petite, mais pas au garçon parce que c'était compatible avec la petite, qui a été guérie de sa thalassémie. Donc, compliqué, et évidemment, cela a suscité des débats, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a beaucoup d'idéologies sous-jacentes, et alors, est-ce que c'est un enfant conçu pour être un médicament, ou le terme bébé médicament, ou bien un enfant du double espoir, à savoir pour lui-même de naître sain, et en plus de donner l'espoir, qui n'est jamais assuré, bien entendu, mais pour un des membres de sa fratrie, de sortir de ce mauvais pas. Vous voyez, on commence à quand même toucher des choses qui sont pas comme ça évidentes. Et puis, on se rend compte qu'on se coupe beaucoup de la femme, mais que les spermatozoïdes, vous voyez, ils ont parfois une drôle de tronche quand même, il faut bien le dire. Regardez un peu les trous qu'ils ont là. Et ça, on peut le voir à des très forts grossissements. Donc on s'aperçoit que, finalement, dans la production humaine, il y a quand même beaucoup d'anomalies, et que si on les détecte, on peut à ce moment-là choisir les spermatozoïdes qu'on peut injecter ou que l'on peut féconder. Et on voit que on pénètre de plus en plus dans le monde du choix. C'est-à-dire choisir ceci, choisir cela, essayer d'éviter une maladie, ce qui est le propre de la médecine, bien sûr. Et puis on voit poindre, bien sûr, des demandes qui ne sont pas forcément médicales au sens strict. C'est-à-dire, par exemple, écoutez, si vous pouvez choisir un spermatozoïde et tel ou tel embryon, moi, je voudrais que des garçons. Hein? Donc, dans votre analyse là, que vous prenez, regardez si c'est un garçon ou une fille. Moi, je voudrais qu'une fille. En France, ce n'est pas autorisé. Parce que, on va le voir, si vous voulez, on va revenir tout à l'heure, il y a tout de suite eu ce qu'on appelle les lois de bioéthique et puis des règles de fonctionnement. Mais dans beaucoup de pays du monde, il n'y a pas du tout cela. Et donc, on voit, si vous voulez, que les limites vont se poser de plus en plus, qu'on aura des possibilités de connaissance. Alors, justement, l'encadrement dès qu'il y a eu la naissance d'Amandine en France, il y a eu la création du Comité national d'éthique 2 ans plus tard, qui, je vous le rappelle, est un organisme de 40 membres qui sont désignés par différents ministères et puis par différentes associations représentatives de la réflexion et qui doit être indépendante du pouvoir pour donner des avis qui seront retenus ou pas retenus. Et puis ensuite, il y a eu des lois de bioéthique et en France, il y a eu 4 lois. Et vraisemblablement, après le débat de cette année, il y aura des modifications qui seront faites, puisque vous le savez, on va discuter un certain nombre, là encore, d'indications sociétales. Donc, un encadrement important, quand même, puisqu'il y a une agence de biomédecine, et cette médecine-là, si vous voulez, je crois qu'il n'y en a pas une qui est aussi encadrée. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose sans que ce soit transparent, connu, autorisé. On est très encadré dans ce domaine en France. Ceci étant, il n'y a pas eu de dérive en France. Tout ce que vous avez entendu, vu dans les journaux, différents trucs absolument abracadabrants autour des enfants considérés comme des objets, ça ne s'est pas passé en France jusqu'à présent, en tous les cas, jusqu'à ma connaissance. Donc, voilà, un encadrement, mais peut-être nécessaire. Il n'empêche que ces techniques aboutissent à une maternité qui peut être divisée. Elle peut être divisée entre une femme qui donne ses ovules, une autre femme qui va porter l'embryon et une autre femme qui va élever l'enfant. Donc 3 mères possibles. Un père qui va donner des spermatozoïdes et puis un autre qui va élever l'enfant. Et puis je ne parle pas des pères spirituels. Donc vous voyez, là, il y a foule. Plus les remariages, enfin bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est sûr que la parentalité change dans notre pays, pas toujours avec la fécondation in vitro, mais disons que la fécondation in vitro peut, en tous les cas, introduire d'autres dissociations. Alors, l'idée, c'est que, bon, si vous faites finalement un bébé éprouvette, comme on dit, et que lorsque vous avez la naissance d'un enfant très prématuré, c'est-à-dire à 22, 24 semaines de grossesse, la grossesse étant 41 semaines, n'est-ce pas, donc très tôt, 5 mois et demi, 5 mois, il peut y avoir mise en couveuse et puis survie. Est-ce que la première semaine, vous avez l'éprouvette, là, vous avez déjà la possibilité d'avoir une couveuse et de faire vivre un enfant. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas toute la grossesse dans ce qu'on appellerait des utérus artificiels? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et à mon avis, je ne sais pas si un jour ce sera possible, tellement le mécanisme est complexe. Mais c'est intéressant d'y penser. Et il y a un très beau livre, d'ailleurs, que je vous conseille pour ceux qui s'intéressent, de Henri Atlan, qui s'appelle L'utérus artificiel, et qui donne des éléments de réflexion. Et ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est que lors d'une conférence chez des étudiants, beaucoup d'étudiantes d'ailleurs, avec Henri Atlan, nous démontrions un peu l'inutilité de recourir à l'utérus artificiel. Et à la fin de l'intervention, on a fait un vote, et la surprise, c'est que la majorité souhaitait qu'il y ait un utérus artificiel pour pouvoir vivre différemment et avoir son enfant chez soi au congélateur, dans la lessiveuse. Donc, moi, ça m'a quand même beaucoup surpris, interpellé, et voilà, ça fait partie quand même de quelque chose de particulier. Ce d'autant que il y a une autre idée qui a germé, c'était celle de dire, bon, s'il y a des femmes qui ont des utérus, ou pas d'utérus, ou des utérus mal formés, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une transplantation d'utérus? On a bien transplanté le cœur, les poumons, le larynx. Enfin, vous savez que maintenant, on transplante tous les organes. On a maîtrisé quand même le rejet. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne transplante pas l'utérus? Alors, il y a une équipe suédoise, Brandstrom, qui a réalisé 10 transferts d'embryons, 10 transferts d'utérus à partir des mamans des jeunes filles qui avaient des troubles utérins, lesquelles mamans ont donné leur utérus. Alors, est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est éthiquement valable? Elles n'ont pas encore, à ma connaissance, en tous les cas, enceintes ni accouchées, mais on leur a greffé un autre utérus. Donc, un peu plus loin encore dans l'histoire, pour vous empêcher de dormir ce soir, la création de gamètes. Alors là, on touche quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que, si vous voulez, les ovules et puis les spermatozoïdes sont finalement des cellules, comme d'autres cellules dans l'organisme. Et depuis la naissance de Dolly, on sait ce que c'est que des cellules souches, c'est-à-dire toutes ces cellules originelles qui vont donner les autres cellules de l'organisme, en particulier l'os, le foie, la peau, etc. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. D'où l'idée de dire, à partir de la cellule originelle que l'on peut donc trouver chez l'embryon, ou que l'on peut créer d'une autre façon, puisque maintenant il y a encore d'autres développements, alors on pourrait peut-être créer des spermatozoïdes ou des ovules. Et vous voyez ici nos amis japonais qui ont développé donc des néospermatozoïdes, c'est-à-dire des spermatozoïdes artificiels, partie d'une cellule souche. La dirigeant, cette cellule souche que vous voyez ici, donc c'est pas très, vous voyez, on tombe pas d'inanition devant des cellules de ce type, on se dit pas qu'elles sont belles et tout ça, mais elles vont donner, si vous voulez, des lignées, et qui vont aboutir à des spermatozoïdes, et fécondées, vont donner des petits souriceaux. Donc chez l'animal, il y a déjà des choses qui sont faites là-dessus. Donc, est-ce que ça sera fait chez l'homme? Je ne sais pas, mais voilà, c'est pas impossible que l'on avance. Restent donc les problèmes de société. Les problèmes de société, jusqu'à présent, la fécondation in vitro était autorisée pour des couples hétérosexuels qui étaient d'abord mariés ou bien en couple depuis 2 ans. Et puis vous voyez que se discute en France, mais il faut voir que dans d'autres pays comme le Canada, le Québec, qui n'est pas très très loin de nous, eh bien, par exemple, les couples homosexuels femmes recourent beaucoup à la fécondation in vitro lorsqu'elles veulent des enfants, bien sûr. Une femme seule peut-elle bénéficier d'un don de sperme? Est-ce que le don de gamètes, sperme, ovocytes doit être anonyme et ou gratuit? Peut-on autoriser des mères porteuses, c'est-à-dire celles qui vont faire commerce de leur corps, comme c'est dans la plupart des pays du monde où il y a une exploitation qui se fait d'un certain nombre de femmes qui, contre monnaie, vont porter un enfant d'un autre couple? Et va-t-on aller jusqu'au clonage humain? Vous voyez que c'est du sérieux quand même, hein, c'est pas si simple. Ce qui se passe dans notre société, c'est que la femme, eh bien, vieillit, comme tout le monde, autant que l'homme, mais comme vous le savez, là, il y a une différence. L'égalité de l'homme et de la femme, certes, sauf que sur le plan physiologique, la femme, ses organes de reproduction, c'est-à-dire ses ovaires, s'arrêtent de fonctionner lors de la ménopause à 52 ans. Par contre, les autres organes continuent jusqu'à 80. Et chez l'homme, c'est pas la même chose. L'homme peut continuer à produire des spermatozoïdes très tard. Et dans cette évolution de la société, où les femmes, comme je le disais tout à l'heure, souhaitent des enfants plus tardivement qu'auparavant, puisque le premier enfant, c'est 31 ans, même dans la région parisienne, elles arrivent très vite, et puis s'il y a des remariages ou des recombinaisons, bien elles arrivent très vite aux âges où la fertilité baisse de façon redoutable. Donc cette éternité de la femme par rapport à ce fonctionnement ovarien peut être résolue par le don d'ovocytes, peut être résolue également par le fait qu'il n'y a pas de limite à la fonction utérine. C'est pour ça que vous avez pu voir les Italiens s'amuser avec des mamies de 60 ans qui portaient des enfants. Il n'y a pas de limite au fonctionnement de l'utérus. Si vous prenez un ovaire, des ovules de quelqu'un d'autre jeune, eh bien l'utérus d'une femme âgée de 60-65 ans peut très bien porter un enfant. Donc c'est quand même une histoire qui bouscule. En France, c'est interdit. Hein. En France, il y a des limites qui sont données et on ne peut pas dépasser, en tous les cas, 48-49 ans. Il y a déjà un changement, mais qui devient de plus en plus fréquent. Donc, le test tube baby ou bien la fécondation in vitro, effectivement, c'est une transgression qui, en 30 ans et plus, s'est installée pour résoudre des problèmes médicaux, mais pour ouvrir aussi des champs de réflexion. Et parmi ces champs de réflexion, il y en a un qui est plus fondamental, qui est de se poser la question, quand commence la personne humaine? Quand commence la personne humaine, c'est un débat permanent. D'où viens-je et quand suis-je vraiment né, n'est-ce pas? C'est la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est au moment de la rencontre entre les deux, la division cellulaire, les deux noyaux? Est-ce que c'est au moment de l'implantation, lorsque, au sixième jour, cet embryon va s'implanter? Est-ce que c'est à la formation du système nerveux? Est-ce qu'on peut parler de personne? Est-ce que c'est au moment où il y a la viabilité, même tout petit? Est-ce que c'est même au moment de la naissance? Il y a un certain nombre de débats qui ont eu lieu, et si on se réfère aux textes religieux, on s'aperçoit que dans le Talmud, on dit qu'avant 40 jours, c'est que de l'eau, parce que à l'œil nu, on ne voit pas un embryon, mais on le voit à partir de 40 jours, et les premières autopsies qui ont été faites ont montré effectivement qu'il y avait quelque chose dans l'utérus à partir de 40 jours. Dans la religion musulmane, on parle de 40, 80, 120, c'est-à-dire l'étape de la fausse couche. Il y a de plus en plus d'adhérence avec ce multiple de 40, et lorsqu'on a atteint 120, on peut dire que la grossesse est vraiment établie. Et puis dans la chrétienté, le débat a continué parce que il y a eu, si vous voulez, des pères de l'Église qui étaient pour considérer que l'âme, si on y croit bien entendu, mais pour les pères de l'Église, heureusement qu'ils y croient, donc l'âme vient de façon immédiate lors de la fécondation, ou bien vient de façon différée, loin du rapport sexuel, 40 jours, comme disait saint Thomas d'Aquin, pour les garçons, et 80 jours pour les filles. Enfin, à la fin de cette liste, vous voyez que l'Église de Rome a publié une encyclique qu'on appelle Donum Vitae, et qui dit qu'il faut considérer, elle ne peut pas prouver que c'est une personne, mais qu'il faut considérer la personne dès la fertilisation, dès la fécondation in vitro. Bon, c'est un débat qui n'est pas terminé. Donc vous voyez un certain nombre de questions par rapport aux avancées techniques et scientifiques qui partent toutes d'une bonne intention qui est celle de donner espoir et bonheur à une femme et un homme qui ne peuvent pas naturellement avoir un enfant, avec des ouvertures ou des dérives qui sont possibles, surtout lorsque l'on ne met pas de débat citoyen, de règles de fonctionnement dans une société, et on s'aperçoit effectivement que à l'époque de la mondialisation, nous avons quand même, je dirais, des attitudes extrêmement différentes à un bout à l'autre de la planète, avec des possibilités faciles de se déplacer et d'aller voir ailleurs si le soleil n'est pas plus chaud. Merci de votre attention.